VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'envole ce mardi pour Londres pour y voir son médecin, a annoncé la présidence, relançant les doutes sur l'état de santé de l'ancien général de 75 ans. La plus grande opacité règne autour de la santé du président, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaiterait être candidat de son parti pour la prochaine présidentielle de 2019. Monsieur Buhari, qui a déjà passé plus de 5 mois à Londres l'année dernière pour être soigné d'une maladie non communiquée au grand public, devrait rester 4 jours dans la capitale britannique et être de retour samedi 12 mai. Au Cameroun, les autorités, face au dilemme de la lutte contre la prolifération des armes et le combat contre 2 insurrections en cette année électorale, les militaires camerounais ont découvert une importante cache d'armes dans un entrepôt à Ouaé, près de la capitale. Cette découverte a sonné l'alerte sur les risques de déstabilisation à quelques mois de la présidentielle. Lionel Gaïma.
Le Cameroun doit tenir en octobre des élections présidentielles, législatives et municipales. Dans le même temps, l'extrême nord du pays subit des attaques répétées de Boko Haram, pendant que dans les 2 régions anglophones, les rebelles séparatistes demandent l'indépendance. Le mois dernier, le gouvernement a interdit toute vente légale d'armes à des civils. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a affirmé pendant une réunion sur la sécurité à Yaoundé qu'il y avait près de 30 000 armes de guerre et armes légères en circulation au Cameroun.
Ça atteint des proportions inquiétantes et représente une réelle menace à l'ordre public. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où les gens louent les armes et munitions pour aller braquer. Il y a plus de 27 000 armes et munitions en circulation.
Regarde le contexte sécuritaire actuel dans notre pays. Le gouvernement n'avait pas de choix que de prendre ses responsabilités en procédant à la fermeture à titre conservatoire de toutes les armureries installées dans certaines régions et bientôt dans tout le pays.
Une loi adoptée en 2016 punit de 5 à 10 ans de prison toute possession illégale d'armes. Mais la possession illégale d'armes est jugée par un tribunal militaire qui peut condamner à la prison à perpétuité si la personne jugée avait l'intention de troubler la paix et l'ordre public.
Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, a annoncé hier le lancement d'une opération militaire pour libérer la ville de Derna sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. L'heure a sonné pour la libération de Derna, a déclaré le maréchal, qui a précisé que ses forces avaient commencé à pilonner les bastions des terroristes dans cette ville située à plus de 1000 km à l'est de la capitale Tripoli. En uniforme militaire, le maréchal Haftar s'est exprimé à l'issue d'un défilé militaire à Benghazi, dans l'est de la Libye, auquel ont participé des milliers de soldats. 9 soldats kenyans ont été tués dimanche dans l'explosion d'un engin piégé dissimulé sur le bord de la route au passage de leur convoi dans le sud de la Somalie. Dans un communiqué publié lundi soir, le président kenyan Uhuru Kenyatta a déploré la mort de ses militaires. Le convoi visé par l'explosif faisait route vers une base militaire à Doblé dans la région somalienne du Jubaland. Les Shebab ont revendiqué l'attaque. Le dossier de ce journal nous conduit au Congo, au Brazzaville, où le procès contre le général Jean-Marie Michel Mokoko s'est ouvert hier. Il doit se poursuivre aujourd'hui avec l'examen des scellés. Le président de la Cour d'appel de Brazzaville, Christian Oba, a décidé de poursuivre ce procès. Alors qu'hier lundi, le général Mokoko s'est muré dans un silence devant la Cour. Séverin Arsène, notre correspondant à Brazzaville, nous en dit davantage.
Le juge Christian Oba a décidé d'aller au fond de l'affaire et dès ce mardi, il va faire examiner les scellés produits au tribunal contre le général Mokoko. Le juge Oba n'a pas précisé s'il s'agissait de la fameuse vidéo dans laquelle on verrait l'officier en train de préparer un coup d'état contre les institutions établies à Brazzaville. Hier lundi, le général Mokoko a paru influent dans une chemise blanche, pantalon et chaussures noires, pieds croisés et confortablement assis près de maître Angèle Nyelenga, l'une de ses avocats. Après avoir décliné son identité à la cour, l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 s'est défendu en se prévalant de l'immunité de juridiction que lui confère son grade de dignitaire de la République. Et puis, il s'est éteint comme une carpe, plus un seul mot. Son avocat Eric Yvon Ibuanga explique cette attitude.
Mais c'est une position qui est légale. Il a appelé l'accusé à la barre, il a dit à la cour, qu'il est bénéficiaire d'un décret qui l'élève au grade de dignitaire de la République. Donc, en vertu de ce décret qui produit plein et entier effet au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas être justiciable devant la cour criminelle.
Pour la partie civile, la fameuse stratégie de silence est tombée car Mokoko a bien parlé au cours de cette première audience. Maître Emmanuel Oko, représentant des intérêts civils dans cette affaire.
Mais je pense que c'est une mauvaise option. Et puis, les débats ont démontré que cette thèse-là ne peut plus se poursuivre, d'autant plus qu'il s'est exprimé. Il faut désormais aller au fond pour analyser les pièces du dossier, pour analyser, comme a dit la cour, les scellés.
Ce procès a débuté dans une grande confusion marquée par le refus de plusieurs journalistes, notamment ceux des médias internationaux, d'accéder au palais de justice. Une liste triée sur les volets a permis aux agents de la sécurité de ne privilégier que les journalistes de la télévision et de la radio nationale. Témoignage d'un reporter de la Griffe, un journal local.
On nous a repoussés jusqu'à ce que nous avons vu nos amis qui étaient à l'intérieur du palais, qu'on a sorti. Et puis bon, c'est un policier qui arrive, qui nous dit bon, dégagez, allez attendre les instructions de l'autre côté. On arrive là-bas, c'est une fois encore. Sincèrement, nous sommes déçus. Nous avons vu des procès dans ce pays. Il y a eu le procès de Beach qui était transmis en direct. Il n'y avait pas ce blackout qu'on peut appeler comme ça. Mais aujourd'hui, on arrive, c'est vraiment triste.
Un activiste de l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH n'a également pas pu accéder dans la salle.
Alors que c'est depuis le début de cette affaire que l'OCDH est en train de décrier et appeler de tous ses voeux qu'il ait procès du général Mokoko afin que vérité soit faite sur cette affaire. Mais malheureusement, on n'a pas permis à ce que nous ayons accès dans la salle et suivre le début de ce procès.
Tout cela est à mettre dans le compte de l'incertitude et des difficultés de cette première journée, a conclu un fonctionnaire de l'État venu faciliter l'accès des journalistes dans la salle d'audience. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les cadavres de 4 accompagnateurs congolais de 2 experts de l'ONU tués au moment où ils enquêtaient sur des violences au Kasaï dans le centre de la République démocratique du Congo ont été retrouvés hier par la justice militaire. Les 2 experts missionnés par le secrétaire général de l'ONU, l'américain Michael Sharp et la sudo-chilienne Zaïda Catalan avaient été enlevés le 12 mars avec 4 Congolais dans la province du Kasaï central. Les corps des experts avaient été retrouvés 2 semaines après, mais depuis cette date, les 3 chauffeurs de moto et l'interprète qui les accompagnait étaient portés disparus. Patricia Delisle, la maire du Cap, deuxième ville de l'Afrique du Sud, a été limogée aujourd'hui de son poste par l'Alliance démocratique DA, le principal parti d'opposition qui l'a exclu de ses rangs pour faute professionnelle. Les relations entre Madame Delisle, qui dirigeait la municipalité depuis 2011, et la DA étaient exécrables depuis plus d'un an.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le président américain Donald Trump pourrait mettre aujourd'hui à exécution sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Diplomates et observateurs en sont persuadés, sauf revirement de dernière minute. Le président américain devrait annoncer à 18h GMT depuis la Maison-Blanche qu'il rétablit au moins partiellement les sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran en 2015 de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Tous les autres signataires ont défendu jusqu'au bout ce compromis qu'ils jugent historique, soulignant que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui conduit des inspections réputées très poussées, a régulièrement certifié le respect par Téhéran des termes du texte censé garantir le caractère non militaire de son programme nucléaire. Le vice-premier ministre chinois Liu He sera la semaine prochaine à Washington pour reprendre les négociations Chine-États-Unis en vue d'éviter une guerre commerciale entre les 2 puissances, a annoncé la Maison-Blanche. Ses pourparlers visent à vider un contentieux commercial bilatéral sur le colossal déficit des échanges des États-Unis avec la Chine, que le président américain Donald Trump dénonce avec vigueur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré hier le nouveau président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lors d'une visite officielle incluant sa participation à la réunion biennale de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, CEPAL, qui se tient à La Havane. Le secrétaire général de l'ONU ouvrira la 37e session de la CEPAL aujourd'hui aux côtés de la secrétaire exécutive de cette commission régionale, la mexicaine Alicia Barchena. Et puis, le chef de l'opposition arménienne, Nikol Pachinian, a été élu aujourd'hui premier ministre par le Parlement de cette ex-république soviétique du Caucase du Sud, secoué depuis 3 semaines par des protestations anti-gouvernementales. Seul candidat en lice, ce député d'opposition et ancien journaliste, a été soutenu par 59 députés, alors qu'il avait seulement besoin de 53 voix pour être élu. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.